Cibo.com.
Les infos. Vos infos d'ici.
Bonjour, l'avant-dernière de la semaine, jeudi le 5 octobre aujourd'hui. Ça paraît pas, mais on va avoir du soleil aujourd'hui. Bonjour Félix-Antoine.
Bonjour Anne.
En cette journée mondiale des enseignantes et des enseignants aujourd'hui, hein,
ouais.
C'est véritablement ce qu'un enseignant, toi, qui a marqué ta jeunesse? Je sais, je t'ai déjà posé cette question-là.
Ben écoute, oui, j'ai eu des professeurs à différents niveaux dans ma jeunesse, là,
mm-hmm.
Qui m'ont marqué. Il y en a eu un, entre autres, puis je peux le nommer. Là, c'est quand j'ai été en quatrième année au primaire, on a eu un professeur. Moi, c'était généralement des professeurs femmes, là,
mm-hmm.
puis c'était correct. Mais pour moi, ça me prenait quelque chose d'autre. Moi, me faire brasser, jouer, tu sais, on avait du fun, on voulait, tu sais, c'était pas trop dans la douceur. Moi, j'aimais plus quand c'était, tu sais, en tout cas, c'était différent. Puis à un moment donné, c'est ça, en quatrième année, on a eu un prof garçon,
okay.
Marco Cournoyer.
C'était le premier prof gars que tu avais?
Ouais, en quatrième année, okay. au primaire.
Mm-hmm.
Puis ça a été vraiment, moi, il m'a raccroché à l'école. J'aimais pas beaucoup l'école, puis il m'a donné le goût d'aller à l'école. Il m'a donné le goût.
Je me souviens de ça, ouais.
En fait, puis lui, c'est un gars, peut-être que le nom vous dit quelque chose, Marco Cournoyer. Il travaillait à la radio à Gatineau dans les années 90, avec Sheila, entre autres,
mm-hmm.
Fournier. Donc, c'est un gars de radio, fait qu'il il nous faisait faire des revues de presse à l'école le matin. Alors, on était en quatrième année, là, on prenait le journal, puis il fallait lire les
c'est
articles.
C'est là que ça part.
Ben, entre autres, ben, tu sais, je suis le seul dans la gang qui est devenu journaliste, mais moi, je trouvais ça bien le fun, puis ça m'a rendu curieux, puis j'ai aimé apprendre, puis aimé la curiosité. Puis ce gars-là, il nous a tout repris la même classe qu'on avait en quatrième année. Il nous a le groupe intégral en sixième année. Fait que, parce qu'il nous a tellement aimé comme groupe, il a fait « Je vais tout faire pour vous reprendre en sixième année. » Puis il
ben
a réussi. Il a réussi. Fait qu'on a eu la même gang. Fait qu'on a créé une belle énergie aussi avec ce gang-là parce qu'on s'est suivi la même gang durant deux ans.
Ben oui.
Fait que lui a été marquant pour moi.
Cool.
Puis ben, il y en a eu d'autres, mais je te dirais que lui, c'est pas mal.
Ça a été le.
Ben, tu sais, quand t'es jeune, là, ça t'aide à te réaligner un petit
exactement.
Peu.
Exactement. Ah bon.
Ouais.
C'est une belle histoire, ça.
Ben écoute, ça fait plaisir de vous l'avoir raconté.
Et on parle d'école, celle de l'Université du Québec en Outaouais qui inaugurait son programme de droit cette année.
Ouais, l'Université du Québec en Outaouais a ouvert un programme de droit cette année. C'est donc 69 étudiants qui pourront recevoir leur baccalauréat dans trois ans. Le projet a débuté en 2018. Il a d'abord fallu rédiger le plan du programme, puis le faire circuler dans différentes instances afin de valider sa crédibilité. La directrice du département de droit à l'Université du Québec en Outaouais, Julie Bourgeau, explique l'importance de ce programme pour la région.
C'est principalement pour faciliter l'accessibilité aux études dans la région que l'UQO a conçu ce programme-là. C'est l'une des missions de toutes les universités du Québec, en fait.
Il n'y a que quelques universités au Québec qui disposent d'un programme de droit. Julie Bourgeau affirme que ça faisait 50 ans qu'un nouveau module de droit n'avait pas été inauguré.
Il y a quelques universités au Québec qui ont le programme. Il y a aussi l'Université d'Ottawa qui a le programme de droit civil. Puis c'est ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas de nouveau programme de droit qui avait été développé.
Ce qui différencie le module de droit de l'Outaouais, c'est le volet social qui a été inclus. La directrice du module de droit à l'Université du Québec en Outaouais, Adeline Audrerie, en dit davantage.
On a élaboré des principes fondateurs qui font vraiment toute la particularité de notre programme. On souhaite que nos étudiantes et étudiants soient sensibilisés, par exemple, à la norme d'égalité, aux problématiques d'accès à la justice au Québec, au développement des modes de prévention et règlement des différends. Donc, on a donné une couleur particulière à notre programme et je crois que c'est important de le dire.
L'Université du Québec en Outaouais affirme que plusieurs projets d'amélioration du programme sont déjà en cours, d'ailleurs.
Le syndicat des professeurs de l'Université du Québec en Outaouais demande à Bernard Drainville de retirer le fameux projet de loi 23.
Oui, les membres ont adopté une résolution, effectivement, pour demander au ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, de retirer le projet de loi 23 intitulé « La loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique et édictant la loi sur l'Institut national d'excellence en éducation ». Selon Charles-Antoine Bachin, les professeurs en fondement de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais et délégué syndical pour le département des sciences de l'éducation, les collègues des autres départements comprennent bien les enjeux soulevés par le projet de loi 23, dont celui de la création de l'Institut national d'excellence en éducation.
Tous les collègues des autres départements ont bien vu les enjeux qui y étaient associés. Le pouvoir, dans le fond, que donnait le projet de loi 23, autant à l'Institut, mais tout particulièrement au ministre, d'orienter la formation qui sera offerte dans les universités et aussi d'orienter certains travaux de recherche, de mettre en valeur certains travaux de recherche plus que d'autres.
Le projet de loi 23 s'intéresse à la formation en enseignement et s'ingère dans le processus de création des programmes d'études qui relèvent présentement des universités. Charles-Antoine Bachan résume le processus actuel.
Tous les programmes de formation universitaire rendent des comptes, sont imputables soit à la population, soit à d'autres universitaires, soit à des instances internes, soit à des autres professionnels quand il y en a. En éducation, il n'y a pas d'autres professionnels, donc essentiellement, on rend des comptes à nos pairs ou à une instance qui s'appelle le CAPFE, le Comité d'agrément de la formation enseignante.
L'Institut national d'excellence en éducation vise à remplacer l'actuel comité d'agrément de programmes de formation d'enseignement, le CAPFE. Monsieur Bachan, comme plusieurs de ses collègues, émet des doutes sur la représentativité de la nouvelle instance.
Quand on regarde le conseil d'administration, par exemple, de l'Institut tel qu'il est projeté à l'heure actuelle dans le projet de loi 23, on parle d'un conseil d'administration de 9 intervenants. Il y aurait un prof d'université puis un enseignant qui y siégerait ou un enseignant qui y siégerait. On est loin de la représentativité qui existe au sein du comité d'agrément à l'heure actuelle.
Ce dernier se désole du silence de la ministre de l'Enseignement supérieur dans ce dossier, Pascale Derry.
On est aussi tout particulièrement déçu du silence de Pascale Derry, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui devrait essentiellement militer pour la liberté académique, la liberté universitaire, défendre dans le fond ces préoccupations-là puis les faire valoir auprès de ses collègues.
Le projet de loi 23 a présentement l'étude à la Commission de la culture et de l'éducation.
Sommet le possible, une revue à la fois.
Normand Veillette, agent de développement chez Loisirs Sport Outaouais, a démarré récemment un tout nouveau magazine semestriel qui se nomme Sommet le possible. À l'automne et au printemps, les lecteurs pourront découvrir des bonnes pratiques qui dynamisent plusieurs communautés rurales. Cette initiative personnelle et indépendante est née d'une réflexion avec d'autres acteurs du loisir, tel que le raconte Normand Veillette.
Le magazine est né d'une idée de plusieurs personnes qui œuvrent dans ce secteur-là. Puis on se rendait compte que certains magazines touchaient beaucoup plus le milieu urbain. Le Québec est un territoire tellement étendu au niveau rural, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens qui vivent vraiment en ruralité?
Parmi les collaborateurs du premier numéro, on retrouve la conseillère municipale, membre du comité des loisirs à la ville de Maniwaki et doctorante en développement territorial, Madeleine Lefebvre. Son texte intitulé « Les loisirs, une priorité politique » met la lumière sur trois raisons de prioriser ce secteur d'activité. Madame Lefebvre explique pourquoi il était important pour elle d'écrire dans le magazine « Semer le possible ».
J'ai trouvé l'initiative de Normand vraiment intéressante là, pour diffuser de l'information d'une autre façon. Puis, l'idée pour moi, que ce soit deux fois par année, ça aussi, je trouve ça intéressant. Parce que ça crée un moment, une attente, j'ose espérer, là, de la venue du prochain. C'est court, c'est diversifié. Je crois au produit. Là. Fait que je suis contente d'y avoir contribué.
Semer le possible souhaite inspirer les travailleurs en loisirs et les élus, tout en rejoignant la population en général. Elle qui bénéficie directement des infrastructures et des équipements publics. On écoute à nouveau M. Veillette.
Au niveau du loisir, on espère qu'on va inciter les gens puis à avoir une certaine curiosité, puis pourquoi pas, justement, à mettre la main à la pâte pour rendre un monde meilleur.
Le magazine Sommet le possible est disponible en ligne sur le site developpementoutaouais.wordpress.com. Là, l'adresse est disponible sous cet article sur notre site internet
cga.fm. Et voilà! Merci beaucoup, Félix-Antoine.
Bonne émission, Anne!
À tantôt!